Vous écoutez On lit pour vous.
Au Cégep, faire naître l'amour du livre au temps des écrans. Un texte de Catherine Lalonde paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Le lecteur de Cégep, aujourd'hui, est une personne hyper connectée, à l'image de ses professeurs, de sa société. En 2024, alors que la littérature est en compétition avec l'économie de l'écran, en concurrence avec TikTok, le gouvernement Legault laisse s'effriter le soutien aux bibliothèques collégiales, importantes pour développer l'amour du livre papier et de la lecture, selon les avis des spécialistes récoltés par Le Devoir. Le Québec s'est récemment prononcé en faveur d'une austérité ahurissante concernant l'approvisionnement de nouveaux corpus littéraires et de ressources documentaires dans les bibliothèques des cégeps, dit révoltée Amélie Lemieux, présidente de la section Québec de l'Association internationale pour la recherche en didactique du français. Si la tendance se maintient, le fardeau des enseignants sera de plus en plus grand, prédit l'experte. Les professeurs vont avoir beaucoup plus de pression. Ils vont devoir innover encore pour stimuler l'engagement envers la lecture, pour trouver des moyens de réduire l'écart entre le livre et la vie de tous les jours, de ces jeunes aux écrans superposés. Cela voulait déjà dire, pour eux, de travailler à revitaliser et à revaloriser le livre papier. Ce sera de plus en plus difficile d'intéresser ces jeunes à la lecture papier s'ils n'y ont pas accès, car l'accès au livre est important pour les découvrir, précise Mme Lemieux. Dans une lettre ouverte envoyée au Devoir après son entrevue, elle souligne les résultats catégoriques de la plus récente enquête québécoise sur la découverte des produits culturels et le numérique. La consultation physique en librairie, en magasin ou en bibliothèque figure au troisième rang, 64%, des moyens utilisés pour découvrir des livres par les personnes internautes de 15 ans et plus au Québec, rappelle le document. La découvrabilité des titres dépend donc, entre autres, des endroits dans lesquels se trouvent des ouvrages disponibles. Pour la tranche d'âge des 15 à 29 ans, les statistiques s'élèvent à 70%, poursuit Amélie Lemieux. Pour elle, priver les jeunes de l'accès aux livres en bibliothèque est une entrave aux découvertes littéraires et, ultimement, au développement de leurs compétences lectorales. Quand on lui a demandé s'il était conscient des impacts que cela avait sur la capacité des professeurs à obtenir les ouvrages dont ils ont besoin pour enseigner ou sur les librairies du Québec, le ministère de l'Enseignement supérieur a répondu qu'il avait imposé ce niveau d'investissement en 2024 pour les établissements collégiaux au nom de la « saine gestion des finances publiques ». Pas d'exploration, pas d'exploréen. La directrice des études du Cégep de Sherbrooke, Sophie Meyer, connaît cet enjeu. Dans son établissement, comme dans bien d'autres au Québec, les défis en littératie sont vifs et l'impact des mesures qui déparent les bibliothèques est direct. Pour attirer les jeunes vers la lecture, pour leur donner vraiment le goût de découvrir les romans québécois et d'ailleurs, on va être limité en 2024. Et probablement en 2025, a-t-elle confié lors d'une récente entrevue au Devoir. Car sa bibliothèque doit s'en tenir aux achats essentiels, c'est-à-dire strictement aux documents inscrits dans les plans de cours. Aucune trouvaille littéraire supplémentaire ne peut s'y glisser. On vient de couper dans les achats qui permettent aussi à la culture de se développer, se désole Mme Meyer. Même la recherche pédagogique des professeurs est empêchée. Souvent, on achetait des documents, des livres, même des jeux de société que les profs exploraient et testaient pour trouver des pistes pédagogiques. Après, ça devenait du matériel pour certains cours ou, dans le cas des jeux, pour des interventions faites par le personnel intervenant, par les techniciens en éducation spécialisée, par exemple. Ça n'est plus possible. Se désole la directrice des études. pour qu'un élève soit engagé minimalement dans la lecture d'une œuvre littéraire, renchérit Amélie Lemieux, il faut qu'il se voie dans les livres qu'il lit, ou dans les émotions qui sont mobilisées, ou dans les enjeux de société qui s'y trouvent. L'actualité littéraire aide alors. Marika Chartrand-Lee, 19 ans, le confirme. Non seulement il devrait y avoir des nouveautés dans les bibliothèques d'école, il devrait surtout y en avoir et des œuvres contemporaines dans l'enseignement. Les enseignants façonnent à 90% mon bagage littéraire et ma curiosité créative, estime celle qui a fait son cégep à Édouard Montpetit et qui entame ses études littéraires à l'UQAM. Ça serait bien de voir davantage les actualités littéraires. Littérature concrète. Les collégiens doivent avoir accès à un savoir renouvelé et pouvoir consulter et emprunter des livres de fond et des nouveautés littéraires, estime également l'Association nationale des éditeurs de livres, ANEL. Nous partageons l'inquiétude de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec. Si on souhaite intéresser les jeunes à la culture québécoise, il faut que les bibliothèques collégiales demeurent de riches lieux de découverte et d'acquisition de connaissances, scande à son tour Geneviève Pigeon, présidente de l'ANEL. La spécialiste de l'enseignement de la lecture Amélie Lemieux a-t-elle une recommandation pour ces bibliothèques de cégep en crise? Je crois qu'il faut miser sur les collaborations entre les établissements, avec les bibliothèques municipales, peut-être les bibliothèques universitaires. Il pourrait y avoir des prêts ou des accès interbibliothèques. Il va falloir qu'on aille vers ça. Bref, apprendre aux étudiants à utiliser les autres bibliothèques. C'est ce que propose celle qui enseigne aux futurs enseignants comment la littérature s'apprend et s'enseigne. La littérature a cette essence comme la philosophie, cette espèce de parfum intangible qui fait qu'on ne sait pas trop pourquoi, concrètement, on la lit, pourquoi on l'étudie. Avec le temps, on comprend qu'elle nous aide à développer l'esprit critique, l'ouverture vers l'autre, la diminution de la xénophobie, qu'elle augmente l'empathie fictionnelle, qu'elle aide à être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Elle tient un rôle crucial dans les années de cégep, celle de la fin du développement de l'identité, du passage à l'âge adulte, rapporte encore Madame Lemieux. Et si on n'a pas accès sur notre lieu d'études dans notre établissement aux nouveautés littéraires de notre société, quel message envoie-t-on à la population? On dit que la littérature n'est pas importante, conclut la spécialiste. C'était, au cégep, faire naître l'amour du livre au temps des écrans. Un texte de Catherine Lalonde paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Une avancée majeure dans le traitement de l'asthme. Un texte de Mathieu Perrault paru le 29 novembre 2024 dans La Presse. Les crises d'asthme pourraient être beaucoup mieux traitées grâce à une découverte britannique. Il s'agit du premier nouveau traitement en 50 ans pour cette affection pulmonaire qui conduit de nombreux patients aux urgences. En quoi consiste l'avancée britannique? L'utilisation d'un médicament appelé benralizumab chez les patients qui arrivent aux urgences avec une crise d'asthme ou d'obstruction pulmonaire chronique réduit de 30 % les rechutes. Le benralizumab est aussi beaucoup moins dommageable que le traitement actuel, les corticostéroïdes, affirme Richard Russell de l'Université Oxford, l'un des auteurs de l'étude publiée cette semaine dans la revue scientifique The Lancet Respiratory Medicine. Les corticostéroïdes augmentent le risque de diabète et d'ostéoporose et font prendre du poids, indique le Dr Russell. Si on en prend seulement 5 fois pour 5 visites aux urgences avec une crise respiratoire, on arrive à la dose maximale recommandée pour toute la vie. Spécialiste de l'asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, Jean Bourbeau qualifie la découverte d'avancée majeure. Ça fait 50 ans qu'on traite les visites aux urgences pour des crises d'asthme ou de MPOC de la même façon. Le benralizumab étant déjà utilisé, son approbation pour ces crises pourrait survenir d'ici 5 ans, selon le Dr. Russell. Il s'agit d'un anticorps monoclonal, un traitement biologique qui cible des cellules du système immunitaire appelées éosinophiles impliquées dans l'inflammation des poumons. Quel est l'avantage pour les patients? Le traitement est plus efficace et réduit les nouvelles hospitalisations, souligne le Dr. Russell. Le benralizumab a très peu d'effets secondaires négatifs. Il faut cependant vérifier si le dosage, 3 fois plus élevé que pour les applications actuelles du benralizumab, sera aussi sécuritaire, précise-t-il. Mais attention, le benralizumab ne pourra pas aider tous les patients. Il faut que ce soit une crise impliquant les éosinophiles, explique le Dr. Russell. Ça représente la moitié des crises d'asthme et 30% des crises de MPOC. Quelles sont les applications actuelles du benralizumab? Il est utilisé depuis une dizaine d'années pour traiter l'asthme sévère, non contrôlé. Dans cette utilisation, il est pris à intervalles réguliers, dans certains cas, une fois toutes les 8 semaines, pour éviter que des patients aient des crises. L'autrice principale de l'étude, Mona Bafadel de l'Université Nuffield, a découvert, il y a 15 ans, que certains patients ont un type d'asthme ou de MPOC impliquant les éosinophiles. Donc, on a commencé à cibler les éosinophiles dans la gestion quotidienne de ces maladies pour éviter les crises, raconte le Dr. Russell. Mais les quelques traitements biologiques comme le benralizumab utilisés pour traiter l'asthme de type éosinophilique sont très chers, ce qui empêche leur utilisation généralisée, selon le Dr. Bourbeau. Le coût d'un traitement régulier peut dépasser 20 000 $ par année, signale-t-il. Il faut 2 à 3 mois pour faire approuver leur utilisation par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour un patient pour l'asthme, soutient le Dr. Bourbeau. Les traitements biologiques ne sont pas encore approuvés pour traiter la MPOC sévère, pour éviter les crises, mais le Dr. Bourbeau a pu en prescrire à quelques patients dans des protocoles de recherche. « Ça a changé leur vie, dit-il. On parle de gens qui étaient toujours essoufflés, qui ne le sont plus. » Le Dr. Bourbeau ne peut fournir de statistiques sur la proportion des patients asthmatiques qui reçoivent des traitements biologiques. Pour sa part, le Dr. Russell estime que 1,5% des asthmatiques britanniques en reçoivent, mais que dans un monde idéal, cette proportion devrait être de 2 à 3 fois plus élevée. Quand pourra-t-on voir le benralizumab utilisé aux urgences pour des crises d'asthme ou de MPOC? Si une autre étude clinique confirme les résultats des docteurs Russell et Bafadel, il faudra changer les protocoles. Actuellement, les patients en crise reçoivent souvent des traitements avant d'arriver aux urgences, par exemple dans une clinique, expose le Dr. Bourbeau. Il faudra trouver une manière d'identifier les crises de type éosinophilique. Dans un contexte où on centralise les prises de sang, ça va être difficile. Le Dr. Russell affirme qu'un test sanguin rapide peut détecter en quelques minutes si une crise respiratoire est de type éosinophilique. Ce test pourrait même être fait à la maison, précise-t-il. autre problème. Il faudra avoir du benralizumab sous la main, malgré son coût. Étant donné le contrôle qu'on a actuellement sur ce médicament, ça va demander un changement organisationnel, prévient le docteur Bourbeau. Le docteur Russell demeure toutefois optimiste. Si on a moins d'hospitalisations, ça va être moins cher pour le système de santé, même avec ces médicaments très coûteux. Il mentionne la rhumatologie, un autre domaine médical où les maladies sont causées par l'inflammation et où les médicaments biologiques sont utilisés couramment. En savoir plus, 10%, proportion de la population canadienne qui souffre d'asthme, source Asthme Canada, 9%, proportion de la population canadienne qui souffre de maladies pulmonaires obstructives chroniques, source Association pulmonaire du Québec. C'était une avancée majeure dans le traitement de l'asthme, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 novembre 2024 dans La Presse.
Les cellules se souviennent du surpoids. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse. Les tissus adipeux conservent une mémoire du surplus de poids, ce qui complique encore davantage la tâche de ceux qui essaient de maigrir, a constaté une équipe européenne. Les chercheurs expliquent que leurs résultats témoignent de l'existence d'une mémoire obésogène largement basée sur des changements épigénétiques stables dans les adipocytes de souris et probablement dans d'autres types de cellules. Ces changements, précise-t-il dans la prestigieuse revue scientifique Nature, semblent préparer les cellules à des réponses pathologiques dans un environnement obésogène, contribuant à l'effet yo-yo problématique souvent observé avec les régimes. Cet effet yo-yo est bien documenté dans la littérature scientifique depuis de nombreuses années, a rappelé Benoît Arsenault, qui est professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université Laval. On sait que les gens qui ont un poids élevé et qui se mettent dans une situation de déficit calorique et qui essaient de perdre du poids, il y en a une partie pour qui ça ne fonctionne pas du tout. Mais il y en a une partie pour qui ça fonctionne à court terme, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, les kilos reviennent. Et parfois même, on reprend un peu plus que ce qu'on avait perdu au début, a-t-il dit. Les chercheurs européens ont utilisé des techniques de séquençage sophistiquées pour examiner des cellules humaines et murines. Ils ont ainsi constaté, en comparant des tissus humains adipeux prélevés avant et 2 ans après une chirurgie bariatrique, des changements dans l'expression des gènes, notamment ce qui concerne les processus métaboliques, l'inflammation et la signalisation cellulaire. Les cellules de souris, quant à elles, conservaient une mémoire épigénétique qui les prédisposait apparemment à une réponse excessive en cas de réexposition à une alimentation riche en gras. Cela entraînait une prise de poids plus rapide comparativement aux souris n'ayant jamais été obèses. On sait que le cerveau a mis en place des mécanismes biologiques pour résister à la perte de poids, a dit le professeur Arsenault, et qu'il s'agit d'une stratégie évolutive. Si on ne résiste pas à la perte de poids lors d'une longue famine, la survie pourrait être menacée. Mais on ne savait pas qu'il y a aussi des mécanismes dans le tissu adipeux qui est responsable d'emmagasiner notre surplus d'énergie, a-t-il poursuivi. Quand on a un excédent calorique, ce ne sera pas long que la cellule adipeuse va mettre en place des mécanismes pour, justement, favoriser le gain de poids, pour éviter des pertes de poids, parce que notre organisme est programmé contre la perte de poids. Plus on étudie le phénomène de l'obésité, plus on en découvre la complexité et plus on réalise qu'il ne sera pas simple de mettre au point un traitement, si c'est seulement possible, a souligné le professeur Arsenault. Et s'il n'est pas impossible que cette découverte mène un jour au développement de nouveaux traitements, selon lui, son impact à court terme sera fort probablement plus humain que médical. Pour le moment, on offre des réponses aux individus qui ont des enjeux d'obésité, a-t-il dit. Un phénomène de perte de poids et de regain de poids peut avoir des conséquences psychologiques très négatives, notamment au niveau de l'estime de soi. C'est important de dire à ces gens-là que ce n'est pas de leur faute s'ils ne sont pas capables de perdre du poids à long terme. De multiples tentatives répétées et infructueuses de perte de poids peuvent avoir un impact dévastateur sur la santé mentale des patients, a réitéré M. Arsenault. Une telle étude pourrait donc leur apporter une certaine paix d'esprit en les amenant à développer une relation plus saine avec leur corps. Il faut aussi répéter l'importance de l'activité physique, a-t-il ajouté, puisqu'on verra de multiples bienfaits sur différentes facettes de la santé, même sans perte de poids importante. Cette étude recadre les attentes des gens envers leur poids et le format de leur corps, a conclu M. Arsenault. Les études sont très claires. La majorité des bénéfices est expliquée par une perte de poids d'environ 5 ou 10 % du poids corporel de départ. Perdre 20 ou 25 % n'amènera pas de bénéfices proportionnels. On parle donc de petits changements qui ont des effets spectaculaires. C'était « Les cellules se souviennent du surpoids ». Un texte de Jean-Benoît Legault, de la Presse canadienne, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse.
Chronique de Parc à chiens. Adaya et Awana. Adopter une boule d'énergie et d'amour. Un texte commandité, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. Quand la pandémie et ses confinements successifs ont frappé, Adaya Samatar a vu là une occasion de réaliser un rêve de longue date. Adopter un chien. Avec son amoureux de l'époque, elle s'est lancée à la recherche d'un compagnon affectueux adapté à leur quotidien en ville. C'est comme ça qu'Awana a déboulé dans leur vie avec toute l'énergie d'un labradoodle. Comme beaucoup de gens pendant la pandémie, Adaya s'est retrouvée avec plus de temps libre qu'elle n'en avait jamais eu auparavant. J'ai toujours voulu avoir un chien. Mon ex-fiancé et moi, on s'est dit que c'était le moment idéal pour se consacrer à l'éducation d'un chiot, raconte l'étudiante. Elle s'est aussi demandé quelle race de chien correspondrait à la vie citadine de son couple. On voulait un chien joueur, très sociable, explique la propriétaire d'Awana, un caniche croisé labrador. Aujourd'hui âgée de près de 4 ans, la chienne remplit en tout point sa mission. Elle m'accompagne partout. Sur les terrasses, au travail, dans le métro. Elle adore les chats, les autres chiens et les enfants, dit la résidente du village. Ce qui est ironique, c'est qu'Awana vient de la campagne, de Cowansville. À son arrivée, elle avait peur de tout. Un camion qui passe dans la rue, une sonnette dans l'immeuble, le moindre bruit la faisait sursauter. Mais aujourd'hui, c'est la parfaite city girl. Bébé en garde partagée. Encore une fois, comme beaucoup de gens pendant la pandémie, Adaya et son compagnon de vie ont décidé de prendre des chemins séparés. S'étant quittés sans animosité, ils ont fait le choix d'une garde partagée canine. Les ex se rencontrent toutes les deux semaines pour s'échanger à Awana. Chacun a trouvé sa place dans cet arrangement atypique. Le papa du labradoodle s'occupe des visites chez le vétérinaire, tandis qu'Adaya, débrouillarde, excelle à trouver des solutions de garde à la dernière minute. Si leur entente peut en surprendre certains, elle leur permet de mieux concilier les différentes sphères de leur vie et de se consacrer pleinement à leur chienne durant leur période de garde respective. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, assure Adaya. C'est juste inhabituel pour ceux qui découvrent cette idée. Parc à chiens, des moments pour socialiser. Awana est une habituée du parc à chiens du Parc des Royaux, où elle adore retrouver ses amis canins. C'est là que la jeune chienne a appris à socialiser. Ses sorties au parc à chiens permettent aussi à sa propriétaire de tisser des liens avec les gens du quartier. J'y ai rencontré une personne de mon quartier qui est devenue une très bonne amie. La nouvelle arrivante avait besoin de s'exercer à converser en français, ce que les deux voisines ont tout le loisir de faire pendant que leurs toutous respectifs dépensent leur énergie. « Le parc, oui, c'est un endroit où socialiser, » dit Adaya, propriétaire d'Awana. « Mais c'est aussi un endroit où il faut rester vigilant et surveiller le comportement de son chien et celui des autres. » Je reste toujours alerte à ça pour prévenir les accidents. On ne connaît jamais le vécu des chiens qu'on rencontre. Une présence réconfortante. Il y a un an, la vie d'Adaya a pris un tournant inattendu. Victime d'un accident de travail, elle en garde un trouble de stress post-traumatique. C'est à ce moment-là qu'Awana est devenue bien plus qu'un simple chien de compagnie. Elle est devenue mon soutien émotionnel, une grande alliée dans mon rétablissement en santé mentale, confie l'étudiante. Certains jours, l'anxiété et la dépression sont si écrasantes qu'Adaya en est clouée au lit. Ces moments où je m'efforce de sortir, même quand tout me semble insurmontable, sont des victoires silencieuses que je n'aurais pas pu remporter sans elle. Aujourd'hui, Adaya réalise tout ce que cette compagne lui a apporté depuis son adoption. Ce grand bout de chien, si plein de vie, est devenu un pilier dans ma reconstruction et je lui en suis infiniment reconnaissante. Pour Awana, je trouve toujours la force de me lever, ne serait-ce que pour lui permettre de sortir et de se dégourdir les pattes. C'était Chronique de Parc à chiens, Adaya et Awana, Adopter une boule d'énergie et d'amour, un texte commandité paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.